Bon mardi, bon 5 mars. J'espère que vous allez bien. Je m'installe avec vous pour une heure dans l'heure CV. Mon nom est Pascal. Dès demain, je serai en direct du Salon de l'Auto. C'est ma dernière journée en studio pour cette semaine. Un peu fébrile quand même de se ramasser dans un environnement que je maîtrise très peu, mais je vais être très contente de vous rencontrer. Non, honnêtement, le Salon de l'Auto, c'est beaucoup plus que pour les passionnés, fervents et fans de l'automobile. Il y a tellement d'activités, même avec les enfants en pleine semaine de relâche, c'est le temps d'aller voir ça. Il y a même une piste de go-kart intérieure à aller essayer avec vos enfants. Magique comme expérience. Et justement, j'y serai pour l'heure CV en direct. C'est sûr que quand on fait l'émission, on a un peu moins le temps de jaser avec les gens, mais entre l'heure CV et Marceau le midi, dans les pauses aussi avec Yannick Marceau, on va avoir en masse le temps de vous jaser. Tom sera ici à la console, notre acolyte du midi. Pour le reste, ben, on va être là de demain à vendredi. Toute la semaine, là, on s'en va vous rencontrer. On sort le studio directement au centre de l'auto. Puis ça va être très intéressant aussi de voir toutes les nouveautés de ces voitures-là qu'on n'a pas la chance de voir régulièrement. Fait que j'ai hâte de vous rencontrer, puis j'ai hâte de voir aussi cet événement-là dans lequel je me plonge rarement. Bon mardi, comme je vous disais, bon 5 mars. Aujourd'hui, ben, c'est une magnifique journée ensoleillée. C'est le super mardi dans 15 États aussi aux États-Unis pour les primaires républicaines. C'est une journée importante, primaire 2024. Ici, à Québec, ben, c'est une journée un peu moins importante, mais une belle journée. 5 degrés, c'est ce qu'on ressent à l'extérieur, alternance soleil-nuage. Ça pourrait monter jusqu'à 8 en termes de température. Demain, mercredi, c'est de la pluie. Alors, si vous avez à sortir aujourd'hui, c'est le temps. Demain, un peu de pluie, comme je vous disais, sur tout le territoire de Québec. Jeudi, vendredi, c'est du soleil. Majoritairement, des températures là, très agréables, bien au-delà et au-dessus du 0 degré. Dans leur CV aujourd'hui, on va recevoir entre autres Philippe Dubois, professeur en communication publique et politique à l'ENAP. J'ai envie d'aller explorer avec lui, à savoir, est-ce qu'on parle trop de la santé dans les médias et est-ce qu'on on donne trop de points de presse tellement que vous êtes perdu là-dedans, tellement que vous n'écoutez plus et que vous n'avez pas d'intérêt? Pourtant, la santé, ça reste extrêmement important. Je veux dire, c'est dans notre vie de tous les jours. Et si on ne veut pas replonger dans des déboires de santé publique comme on a déjà connu, ben, faut être au courant, faut s'en charger et puis il faut surtout s'en inquiéter quand ça arrive un point de presse important comme celui d'hier que presque personne n'a écouté sur la recrudescence des cas de rougeole au Québec. Chose très contagieuse, très, très contagieuse et même mortelle pour les enfants. Les recherches du passé nous démontrent qu'on s'en était sorti dans les dernières années parce qu'il y avait eu vaccination. Et en ce moment, ben, depuis la pandémie, depuis qu'on a parlé de vaccination contre la COVID-19, ben, je pense qu'il y a des gens qui ont pas voulu adhérer à cette vaccination-là pour leurs enfants avec la rougeole. Puis ça nous amène à avoir quelques problématiques au niveau de la santé publique. Des pannes électriques, on en a ici dans la grande région de Québec depuis ce matin. Moi, je suis touchée, je ne sais pas pour vous, on est à peu près là, 1200 clients partout dans la capitale nationale au total là, qui en manque. Si je regarde où c'est dispersé, bon, un peu plus loin que la capitale nationale, tu as Charlevoix, dans Portneuf, il y en a aussi, mais c'est Québec hors MRC là, qui en écope beaucoup. Je vous dirais que Beauport, il y en a quelques-unes. Québec-Est, il y en a plusieurs, presque 500. Sillery, on est à 200. Sainte-Foy, quelques-unes. Charlebourg aussi, quelques-unes. Alors, c'est pas prévu pour le moment, là, dans la prochaine heure, d'avoir un rétablissement d'Hydro-Québec là, pour l'électricité, mais il s'affaire justement à essayer de le régler le plus rapidement possible pour s'assurer que ce soit bien. Pour commencer l'émission, bien sûr, on a toujours des citations qui ont marqué l'histoire qu'on se partage ici. Je dois vous en partager une qui m'a été envoyée par un auditeur, en fait, et ça vient d'Aristote et non de l'auditeur. Mais être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Très bon, ça, quand même. Hein? Quand on pense que tout est parfait, tout doit être parfait, que les défis sont insurmontables, quels qu'ils soient, ben, peut-être qu'on se leurre puis qu'on s'empêche d'être heureux comme ça. C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Merci d'avoir choisi l'heure CV. Gab Bouchard, tout de suite dans vos oreilles avec Remède. On revient dans un instant.
L'heure CV avec Pascal CV.
On va revenir revenir sur ces primaires républicaines, hein, duel Trump-Biden dès novembre. Vous le savez, super mardi aujourd'hui du côté des États-Unis. C'est vraiment la façon dont on décrit cette journée-là pour les primaires de 2024. Je reviens sur le sujet dans quelques instants. Un dossier qui a fait réagir beaucoup les auditeurs ce matin, c'est le manque de fiabilité des électroménagers. Ça fait quelques histoires qu'on entend là, récemment, puis même autour de moi, des gens qui paient jusqu'à 2000, 3000 des électroménagers et ça brise en seulement quelques années après l'achat, puis si c'est pas pour dire dans la première année. Là. Il y a de moins en moins de réparateurs, en fait, comme dans le temps. Il y avait sur l'avenue Royale, dans mon temps, à l'Ange Gardien, un réparateur là, qui prenait de tout, là, autant des électroménagers, une télévision, n'importe quoi, finalement, était réparable. Puis il y avait cette façon d'avoir appris à réparer, en fait, l'électricité d'un appareil ou encore les moteurs d'un appareil qui était plus général. On avait appris à mettre les mains là-dedans, un peu comme les voitures dans le temps, quand tu avais un bris moteur ou autre, tu étais capable de jouer dedans parce qu'il y avait des similarités. Maintenant, ben, chaque entreprise a un peu diversifié sa façon de faire. Toutes les pièces ou presque sont rendues protégées par des éléments de plastique et autres, ce qui fait en sorte que c'est pas mal juste les concessionnaires qui peuvent assurer une réparation sur le sens du monde ou encore les garages qui sont capables de réparer les 10 modèles en question. Mais ça a changé beaucoup. On parle souvent d'obsolescence programmée, comme quoi, ben, avec le marketing, on a fait en sorte que les appareils soient peut-être un peu moins pour faire la guerre qu'autrefois. Il y en a qui ont encore des vieux frigos. Si vous avez ça, 88-971-1021 ou encore des proches à vous, là, mais des vieux frigos de la vieille garde qui consomment énormément d'électricité, mais qui fonctionnent très, très bien, qui sont incassables, ils ne briseront pas. Ces gens-là qui ont travaillé très, très fort pour se payer un frigo dans le temps à 3 000 $, ben, ils vont le garder jusqu'à la fin de leur jour, hein, la vieille garde. Mais il faut parler de cette fiabilité-là des électroménagers. On dit que les Québécois n'ont pas le choix de se tourner plus souvent vers les réparateurs maintenant, malgré les coûts qui peuvent être élevés. Là, des fois, on parle d'un 600, 500, 1000 $ pour réparer un frigo, par exemple. Quand il t'a coûté 2000, 3000, ben, c'est quand même le tiers du prix, finalement. Et ça lâche sans avertissement, puis tu as besoin de ton frigo. Si tu n'as pas de garantie, ou encore si tu en as une, ben, ça se peut que tu attendes aussi avant que le réparateur vienne chez toi. Puis c'est pas toujours fait pour que ça dure non plus. On parle des compresseurs, des appareils qui sont peut-être un petit peu moins puissants qu'autrefois. Donc, on a parlé à des réparateurs du côté du Journal de Québec, puis on dit que, par exemple, les réfrigérateurs d'aujourd'hui ont de plus petits compresseurs que par le passé. Donc, quand ils forcent plus, ça brise davantage. Et on s'est rendu compte que, justement, les compresseurs ne font pas toujours le travail pour la demande de l'appareil, puis des gens qui se font avoir avec ça. Il y a beaucoup d'histoires quand on commence à parler de ça, normalement. Là, en fait, tout le monde a un peu son histoire d'électroménager qui a rendu l'âme, en fait, puis que ça coûtait plus cher à réparer. Quelqu'un dit 70 ans, la laveuse de ma grand-mère, même avec le pressoir à linge au-dessus. Oui, les vieux frigos des années 60 fonctionnent encore. Ou justement, les laveuses à essoreuse, ça marche toujours. Je trouve ça intéressant aussi de voir vos histoires comme quoi, sur les réparateurs, bien, sont effectivement les indépendants un peu plus en pénurie de présence sur notre territoire. En fait, ils travaillent souvent pour les entreprises en question et non une entreprise en général. J'avais trouvé dans une vieille vente de garage un livre sur comment à peu près tout réparer. Faudrait que je remette la main dessus puis que je puisse l'apporter puis qu'on s'en jase. Mais c'était le Reader Digest qui avait sorti ça dans le temps pour justement les gens intéressés à savoir comment réparer un peu de tout ce qui se trouve dans la maison. Ça a beaucoup changé, fait que peut-être que ça ne s'applique plus, mais je trouvais ça intéressant. Les gens s'intéressaient à ça, justement, et ils voulaient réparer par eux-mêmes. Être le plus autonome et indépendant possible. Fallait même pas être manuel. Finalement, fallait suivre les instructions parce que les moteurs étaient montés de la même manière ou presque. Donc, on change de nouvelle à Saint-Augustin-des-Morts encore. Saint-Augustin-des-Morts qui fait jaser. Le maire Sylvain Junot va bientôt frôler, on dit, les 160 000 $ en rémunération annuelle. C'est le conseil municipal de Saint-Augustin-des-Morts qui s'apprête à voter en faveur de cette augmentation salariale là de 25 % pour Sylvain Junot. C'est pas rien, 25 % quand même. Ça va faire de lui un des maires de ville de 20 000 habitants les mieux payés au Québec. Donc, 31 décembre 2023, le salaire annuel de base du maire Junot était à près de 100 000. juste en 2023. Là. Puis en vertu de l'indexation annuelle à l'inflation, on est rendu à 105 000, puis il y aura cette augmentation de près de 25 % pour faire grimper le salaire à 130 000 $. Est-ce que c'est un salaire qui est adéquat? Ça dépend de vous, mais il a été interrogé par le journal M. Genot. Et lui a défendu la hausse. Il a dit « Les membres du conseil municipal, incluant moi, considèrent que c'est le salaire adéquat pour le poste de maire, pour toutes les responsabilités qui viennent avec. Le juste salaire pour ce poste-là, c'est ça, selon lui et les observateurs de sa mairie. Dans un an et demi, il dit qu'il y aura des élections, puis ça pourrait être un autre maire ou une mairesse qui prenne la place. Il dit que ce soit moi ou un autre, c'est le salaire adéquat, comme quoi il va appuyer, peu importe s'il reste en poste ou pas ce type de salaire-là. Et le vote va se faire le 19 mars prochain lors du conseil municipal du côté de Saint-Augustin-de-Desmaures. Le super mardi. Je vous en parlais, aux États-Unis, c'est une grande journée. Il y a une quinzaine d'États qui vont voter pour leur candidat favori dans le cadre d'élections primaires ou caucus, là, ça dépend. Il y a plus de délégués qui sont en jeu aujourd'hui qu'à n'importe quelle date des primaires. Donc, qu'est-ce qui est en jeu en ce moment? Bien, le super mardi, normalement, ça détermine dans la course à l'investiture des partis quel État sont en faveur ou encore quel État devrait voter pour quel parti pour la suite. La Californie, le Texas, c'est les deux États les plus peuplés du pays, donc c'est très important de voir et d'aller sentir leur pouls. Ils vont se prononcer notamment aujourd'hui. C'est plus du tiers du nombre total des délégués, tant du côté républicain que démocrate, qui seront attribués. Donc, du côté républicain, c'est 874 délégués sur les 2429 délégués qui vont aller à la Convention nationale. Pour les démocrates, un peu plus, mais ils sont plus aussi. Pour les démocrates, c'est 1420 délégués sur les 4672 délégués qui vont participer à cette convention nationale. On continue avec l'information pour ça parce que ça donne quand même le pouls pour la suite des choses, mais dans les 15 États à travers le pays, soit les États-Unis, qui vont tenir leurs élections primaires au caucus républicain et démocrate le 5 mars aujourd'hui, là, c'est notamment l'Alabama, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l'Utah, le Vermont et la Virginie. Donc, c'est des États extrêmement importants et les républicains vont tenir leur primaire en Alaska, ce qui est quand même fascinant. Les démocrates, eux, organisent des caucus dans le territoire de Samoa américaine. Et c'est aujourd'hui aussi qu'ils seront publiés les résultats du vote des caucus démocrates de l'Iowa. Donc, c'est comme ça qu'on est capable aussi de s'enligner pour les prochaines élections. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre que les sondages donnent Donald Trump amplement gagnant en Californie et au Texas. Peut-être aussi dans l'Alabama, le Maine, le Minnesota. Donc, sa campagne qui prévoit qu'il devrait gagner au moins 773 délégués aujourd'hui, dans ce super mardi. Il y a déjà l'appui de 247 délégués et il y a besoin de l'appui de 968 de plus pour atteindre le chiffre qu'on dit magique de 1215 délégués. Quand il y a ce nombre de délégués-là nécessaire, il est considéré comme candidat désigné du parti. Alors, c'est comme ça qu'on sait qu'il ira affronter probablement Joe Biden aux prochaines élections. Puis ça pourrait arriver dès la semaine prochaine, là, après les primaires du 12 mars. Là, on devrait avoir une idée, en fait, si on a été capable de se rendre là. Il n'y a aucun suspense là, pour le président sortant, Joe Biden. Il n'y a aucun rival sérieux de son côté pour le côté démocrate. Donc, il devrait remporter nombre magique là, pour les démocrates, puis assurément être le candidat qui devrait affronter celui des républicains aux prochaines élections. Toujours vraiment pour Donald Trump, mais si on regarde dans le radar, ça devrait passer pour Donald Trump. Voilà pourquoi c'est un super mardi, c'est extrêmement important. C'est la façon de savoir qui est-ce qui va aller affronter le président sortant aux prochaines élections. Québec a élargi l'accès au dépistage du cancer du sein. On dit que la mammographie sans ordonnance d'un médecin sera offerte maintenant tous les deux ans aux femmes âgées de 70 à 64 ans. C'est vraiment pour cette tranche d'âge-là. Avant, le programme québécois de dépistage du cancer du sein, là, ça s'adressait uniquement à celles de 50 à 69 ans. Et on élargit aussi, ben, en fait, du moins, on y songe à élargir l'accès pour les femmes dans la quarantaine. On est là-dedans. C'est l'Institut national d'excellence en santé et services qui a eu ce mandat-là, soit d'évaluer si on élargissait potentiellement le dépistage dès l'âge de 40 ans. Et on planche là-dessus. Deux nouvelles sur la Chine importantes. La GRC et la Sûreté du Québec qui ont utilisé des drones chinois bon marché et qui ont démontré qu'ils sont faciles à pirater. On a parlé en masse de ce sujet-là avec notre expert en sécurité informatique, Patrick Mathieu, ici, à l'émission Leur CV. La compagnie chinoise là, qui les fabrique Ça fait longtemps, on en parle depuis l'automne, est soupçonné d'espionnage aux États-Unis. Et on avait banni, entre autres, beaucoup d'entreprises ici au Québec, puis même à travers le monde, pour être certain de ne pas utiliser ces bébelles-là technologiques chinoises au Québec. Mais là, la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada et même l'armée canadienne utilisent des drones chinois qui sont bon marché, qui sont faciles à pirater et qui ont été bannis par les États-Unis parce qu'ils pourraient être utilisés à des fins d'espionnage. C'est ce qu'a découvert le bureau d'enquête du Journal de Québec. Et on a confirmé que la GRC en possédait 400 de ces drones chinois-là. Pourquoi est-ce que nous, on ne suit pas la danse? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin là-dedans? La firme, en fait, qui est visée, Dajian Innovation, ça domine le marché mondial de la vente de drones parce que peut-être c'est moins cher. Est-ce que c'est encore la loi du plus bas soumissionnaire qui fait en sorte qu'on a acheté ces drones-là dans des institutions puis des organisations aussi importantes que la GRC, la Sûreté du Québec et l'armée? Ah, là, on peut se poser des questions, c'est ça qui est en jeu. Mais l'armée américaine avait banni justement ces drones-là depuis 2017. On est en 2024 parce que la défense soupçonnait justement que ce soit vraiment pas une bonne idée côté espionnage. Depuis mai dernier, c'est la défense australienne qui a mis au sol tous ces drones-là de DJI. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, en fait, quand d'aussi grands pays qui sont sur la défensive décident de chambouler un peu les marchés, en fait, en se disant « Nous, on ne fera plus jamais affaire avec cette entreprise-là. » Il y a un danger, en fait, d'espionnage. Puis là, on apprend que nos grandes institutions, l'armée canadienne en détient, la GRC, d'autres organismes aussi, comme Transport Canada, le Bureau de la sécurité des transports, ont indiqué utiliser ces radars-là pour faire de l'imagerie aérienne. À un moment donné, je ne sais pas à quel moment on va arrêter d'être le cancre canadien dans ce genre de truc-là. Je ne peux pas croire qu'on ne parle pas entre experts, justement, pour nous prémunir de ce genre d'achat-là, puis qu'on ne regarde pas aussi quelle entreprise a été bannie des pays les plus, mettons, stricts sur leur sécurité, là. C'est fascinant de voir ça, mais ça fait très cancre, ça fait très... Tu sais, depuis 2017, là, aux États-Unis, que c'est banni. Nous autres, on est en 2024 et on en a encore dans nos grandes organisations. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Et il y a Pékin aussi qui continue de faire l'actualité parce qu'on l'a dit, tiraillé entre la croissance économique et la sécurité nationale. Ça, c'est vraiment intéressant. La Chine a fixé son objectif de croissance économique à 5 % pour 2024. Ça fait des années que je regarde économiquement comment elle se place à travers le tout. Puis la Chine, elle a un désir très fort d'être la première puissance mondiale économique. Ils ont pris du galon à travers la dernière décennie. Pandémie leur a quand même donné une coupe de bâton dans les roues. Mais c'est encore quelque chose qu'ils souhaitent atteindre. Voilà pourquoi sur le marché de la concurrence, il y a beaucoup de produits chinois partout à travers le monde, des ententes commerciales. Bon, ça c'est un petit peu... Ça s'est un petit peu amenuisé dans les dernières années, justement, parce qu'on voulait se départir des fois de ces ententes commerciales avec la Chine. Mais c'est un des buts économiques les plus importants pour la Chine. En fait, c'est sa mission première ou presque, là. Mais celui qui vient de sortir son objectif de croissance économique de 5 %, c'est un des plus modestes des trois dernières décennies pour la Chine. C'est un objectif qui est ambitieux quand même, là, avec le contexte des déboires que je vous disais en raison de la crise immobilière, le faible taux de consommation des ménages, le ralentissement des exportations, surtout pour la Chine, et la méfiance de plusieurs investisseurs face au premier ministre chinois, entre autres. Mais on continue cette croissance-là, mais on a mis un petit peu de frein à tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises aussi qui commencent à se demander est-ce qu'ils seront capables de faire les mêmes chiffres à travers les prochaines années. Ça, c'est bien, bien moins important pour nous que pour eux, là. Mais le discours du premier ministre Li a eu lieu dans les dernières heures et on dit qu'on veut mettre fin, en fait, à peut-être cette accélération intense à travers les derniers temps parce qu'on a tellement focusé sur l'économie qu'on a peut-être, pour la Chine, oublié de focusser aussi sur notre défense. Et tout a à voir avec le contexte géopolitique actuel. Est-ce qu'on a mis un frein sur notre défense en tant que Chinois? Là, je parle comme si on était en Chine. Peut-être, mais aussi avec tout ce qui est alliance à l'international. Il y a des canaux de communication qui se sont fermés. Souvent, c'est un bon bras de fer du côté de la Chine. Là, les Chinois détestent ceux qui plient. Hein. Ils vont beaucoup plus respecter, par exemple, un Justin Trudeau s'il se tient qu'un Justin Trudeau s'il se plie. S'ils ont l'impression de pouvoir contrôler des gens à travers le monde, ironiquement, ils vont encore moins les prendre au sérieux et encore moins en faire des alliés féroces pour... peut-être les situations de guerre à travers le monde et de conflits, là. Mais la Chine a quand même décidé de ralentir sa croissance économique sur laquelle on pesait sur le gaz, puis pas à peu près, pour en mettre un peu plus dans la sécurité nationale. À ne pas oublier, je vous le dis, on est dans une ère très particulière à l'international, dans le monde entier. Et on revient dans un instant. Merci d'avoir choisi l'heure CV. Vous êtes à Boulevard 102.1. Toujours une façon de nous rejoindre sur Twitch. Le Twitch, c'est twitch.tv/blvd/fm ou encore au 418-971-1021. Je vous lis toujours. Et c'est le temps, en fait, d'écrire parce que je vais prendre cette courte pause pour aller voir vos commentaires.
Pour déjeuner le matin, vous êtes plus...
Avant de recevoir la visite de Philippe Dubois, professeur à l'ENAP en communication politique et publique, parce qu'on va aller jaser d'un sujet qui vous a fait beaucoup réagir quand j'ai posé la question au début de l'émission. Là, je vous demandais, est-ce que vous avez encore de l'intérêt ou encore est-ce que vous trouvez ça pertinent, les points de presse du gouvernement, entre autres en santé? Je dis ça parce qu'hier, il y en avait un important, pour vrai, il y en avait un qui était très important sur la rougeole, les cas de recrudescence au Québec et pour cette maladie qui est quand même importante, contagieuse, qui peut même être mortelle pour les enfants, entre autres, et qui avait été très bien contrôlée dans les dernières années due à la vaccination. Puis je vous disais, est-ce que vous leur donnez encore de l'importance à ces points de presse-là où vous êtes dosé, vous en avez plein le sac, en fait, d'en entendre parler, puis que ça vous intéresse plus. Les commentaires sont entrés en grand nombre, mais on va aller explorer ça avec Philippe Dubois, à savoir si la stratégie politique en ce moment d'en faire des points de presse est la bonne. Est-ce qu'on s'y perd également? Je viens d'avoir de la visite en studio de mon technicien, parce que dès demain, je vous rappelle qu'on est en direct du Salon de l'Auto. Moi, leur CV, et Yannick et moi, pour Marceau Midi, on sera en direct là-bas. On va aller vous rencontrer, faire l'émission dans ce bel événement, en fait, pour toute la famille, puis pour tous les fans ou les non-fans de voitures. C'est ça qui est le fun. Vous allez trouver assurément quelque chose à faire à votre goût. Il y a même une piste de go-kart intérieure. Je pense que ça peut attirer des gens en soi. Ça va vraiment être plaisant. J'ai hâte de vous rencontrer, puis même, je suis un peu fébrile quant à faire mon émission de l'extérieur. Là, si jamais vous passez, n'hésitez pas à nous dire bonjour. On va avoir un signe on air qui va clignoter quand je vais être en onde. Fait que si je parle toute seule, vous avez l'impression que je vous parle à vous, ça veut dire que je vais être en onde. Mais sinon, ça va vraiment me faire plaisir de vous rencontrer. Puis Yannick aussi a très, très hâte. Yannick, c'est un fan de voiture en plus. Fait que j'ai hâte de le voir triper dans cet environnement-là. On vous attend au Salon de l'Auto dès 10 h demain, jeudi et vendredi. J'ai une surprise pour vous. Je suis presque jalouse, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là. En fait, je suis jalouse, si je suis honnête. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else. Cage the Elephant. Si vous écoutez leur CV, vous savez que quand je vous en parle d'une manière comme celle-ci d'un band, c'est que je vais avoir des billets à faire gagner. Attendez, il va y avoir une question. Mais Cage the Elephant sera en spectacle au Centre Bell le 26 août prochain. C'est dans le cadre de la tournée Neon Pill et on vous envoie à Boulevard 102.1 et toute la belle organisation derrière. Ils seront avec Young the Giant et Bakar. C'est vraiment un spectacle à pas manquer. Vous pouvez être à l'écoute de Boulevard 102.1 toute la semaine parce que vous pourriez gagner votre paire de billets toute la semaine avec la programmation. Les billets sont en vente là, sur evenco.ca dès le 8 mars. Ça veut dire dans quelques jours, on va être capable de mettre la main sur cette paire de billets, soit vendredi prochain. Mais d'ici là, moi, j'en ai une maintenant à vous faire gagner pour aller voir Cage the Elephant. C'est pas rien au Centre Bell. Spectacle vraiment extraordinaire. Des amis qui les ont vus pas une, pas deux, mais cinq fois, juste parce que musicalement parlant, à la base, c'est bon. Le son, comme on dit, est clean en spectacle. Puis en plus, ben, si vous connaissez ces chansons-là, c'est votre temps. Si vous voulez la paire de billets pour aller voir Cage the Elephant, mes chanceux, au 88-971-1021. Je veux savoir c'est quoi le titre de cette chanson-là. Bonne chance à tout le monde. Pour aller voir Cage the Elephant. Ouais, gratuitement comme ça, sur le bras de Boulevard et Evenco, le 26 août prochain au Centre Bell. Bonne chance, 88-971-1021. Entre-temps, c'est les trois accords qui sont avec nous dans leur CV. On les a vus au Centre Vidéotron récemment après la game de Boulevard et des Remparts. Ça aussi, c'est très, très, très agréable à voir en show. Moi, c'était ma première fois, puis ça sera pas ma dernière. Internet à Boulevard. Internet. Internet.
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai six cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
OK, on est de retour à l'émission. C'est drôle, c'est drôle. Des fois, à la vie, Internet des trois accords vient de jouer et il y a une panne majeure, mesdames et messieurs, à souligner. Une panne absolument majeure. C'est pas une farce, là. Mais tout le monde la vit en ce moment. Puis il y avait une panne électrique dans plusieurs secteurs, en fait, de la ville. C'est une panne qui était programmée sûrement pour faire en sorte là, qu'on soit capable de gérer le réseau d'Hydro-Québec, de faire des améliorations. C'est encore le cas. Beaucoup de clients qui manquent d'électricité sur le territoire de la capitale nationale. On est à 1200, là, puis c'est pas pour être réglé dans l'heure. Mais ce qui vient de s'ajouter en termes de panne, c'en est une majeure pour Facebook, pour Messenger. En fait, Meta, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là. Si vous étiez connecté, ça s'est complètement déconnecté. Vous n'avez plus de compte en fait, lié dans vos appareils. On s'est dit à tout le monde, session expirée. Grosse, grosse panne, là. Partout, même si vous n'étiez pas déconnecté. Voyez-vous, sur Facebook, sur Messenger, là, j'essaie de voir à Instagram comment ça se passe. Pour le moment, là, ça me dit que c'est impossible de charger mes publications ou encore de faire un refresh, mais ça semble pas être aussi problématique que Facebook. Un gros, gros crash sur Facebook et sur Messenger en ce moment. Ça veut dire quoi? J'en ai aucune espèce d'idée, mais sachez-le maintenant, vous êtes au courant de cette panne-là et puis vous pouvez venir nous écouter sur Twitch, twitch.tv, si vous avez besoin de vous divertir. twitch.tv/BLVD/FM. On va changer de sujet, mais je reste à l'affût quand même de ce crash majeur-là de vos applications favorites. Là. C'est tout le monde en fait qui est concerné. J'ai même demandé aux auditeurs dans les dernières minutes, puis tout le monde est en train de gérer la dite situation, soit en n'ayant aucune idée de quoi faire. Pour aller lancer du prochain sujet, vraiment contente d'avoir à l'émission, mon ami, mais aussi commentateur et chroniqueur régulier ici à l'émission, il s'appelle Philippe Dubois, il est professeur à l'ENAP en communication publique et politique. Salut Philippe!
Salut, Pascal.
Va falloir qu'on gère nos communications autrement, hein, parce que toi et moi, on parle majoritairement par Messenger quand on a des chroniques ensemble. Puis là, ce qui est comique, en fait, c'est qu'on n'a plus notre fil de conversation pour en jaser puis tenir le fil de cette chronique-là. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter, parce que c'est un sujet qu'on maîtrise quand même sur le bout des doigts. Mais Philippe, dans les dernières heures, il y a eu un point de presse important de la santé publique, celui sur la rougeole. Il y a une recrudescence des cas, puis on va pas parler de rougeole, mais suivez-nous, on vous amène à quelque part. On va pas parler de rougeole parce que, même si c'est important, c'est pas le sujet de tout ça. C'est plutôt le fait que personne n'était au courant qu'il y a eu un point de presse. On l'a dit en onde, on l'a dit dans les médias, on a fait ce point de presse-là qui est très important, en fait, parce que recrudescence de rougeole, ça veut dire quoi? Contamination importante, c'est très contagieux, c'est aussi, voire mortel pour les enfants, entre autres. Ça amène des troubles respiratoires. Puis on lit ça aussi à... disons l'achalandage vaccinatoire des dernières années, les gens qui en ont eu par-dessus les épaules, par-dessus la tête, d'entendre parler de vaccination, ont peut-être pas été avec leurs enfants, donner les fameux vaccins qui étaient, comme un peu dans la feuille de route lors d'une naissance dans les dernières années, ce qui a fait en sorte que la rougeole, on n'en parlait presque plus. Hier, point de presse à la santé publique, personne n'a écouté. Philippe, t'explique ça comment?
Ben, parce que, par beaucoup de facteurs, mais notamment le fait qu'on a encore le réflexe des institutions publiques, c'est d'utiliser les médias d'information comme relais d'information. C'est la façon traditionnelle qu'on a de communiquer avec les gens. Par contre, il faut se poser une question. Est-ce que c'est encore aussi efficace qu'avant? Voir est-ce que c'est encore la bonne façon de rejoindre les gens? Je pense que oui. Là. Je pense qu'une conférence de presse, ça reste toujours utile. Mais on ne peut plus simplement miser sur les bonnes vieilles relations de presse et penser qu'on rejoint tout le monde parce que ben, les gens n'écoutent plus ou lisent plus ou s'abreuvent plus, ou du moins de moins en moins. Les gens consomment encore les médias, mais de moins en moins consomment les médias à la source.
De façon assidue ben, comme auparavant aussi. Là, ouais.
Exactement. Puis on utilise davantage les médias sociaux pour s'informer maintenant. Puis là, ben, comme aujourd'hui, puis l'actualité fait bien les choses.
Oui.
Aujourd'hui, si on ne s'abreuve pas dans les médias traditionnels, si on ne lit pas le journal ou qu'on ne consulte pas des sites web, Radio-Canada, TVA Nouvelles, Boulevard, FM, peu importe, et que on s'abreuve uniquement sur Facebook, bien là, ce matin, c'est difficile, à part si on t'écoute pas.
Ouais, c'est planté.
De savoir qu'est-ce qui se passe.
Oui, c'est planté. Je viens de passer la chanson Internet des trois accords. Internet, Messenger, Instagram est planté. J'ai dit, venez nous rejoindre sur Twitch. Et tout le monde a migré vers Twitch. Normalement, les gens, je pense, écoutent majoritairement sur l'application de Boulevard ou encore directement à la radio. Puis j'ai vu le nombre de personnes qui écoutent exploser sur Twitch suite à cette panne-là. Mais ça en dit beaucoup sur on a besoin de se connecter à quelque chose. Puis, en passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Twitch, c'est des caméras en studio. Mais on a besoin de se connecter à quelque chose, puis on a besoin d'aller chercher de l'information d'une manière ou d'une autre. Puis juste avec ce petit bug-là, on voit ce que ça donne. Le hic étant, oui, parfait, le gouvernement, moi, j'y voyais deux branches, a peut-être le manque de pertinence de travailler sur leurs canaux de communication d'information, soit rester à ce qu'ils connaissent par le média traditionnel, par le point de presse Chrome avec des journalistes devant. Uh-huh. Mais aussi, je pense que, en tout cas dans l'analyse, il y a un certain épuisement quant à cette surdose d'informations, surtout en santé en ce moment. Et je posais la question au début d'émission, sachant qu'on allait te recevoir. Il y a beaucoup de points de presse et ça, c'est énormément écrit par texto par les auditeurs. On dit depuis la COVID, on a un peu peur d'avoir peur, on a peur d'être malade, donc on écoute moins peut-être ces nouvelles de santé-là. Certaines personnes ont eu de l'anxiété là, démesurée face à cette peur d'être malade, n'ont pas été malades, n'ont plus envie d'en entendre parler de ces virus-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cet enjeu de communication puis même de santé publique là, qui se côtoie?
Ben oui, puis tu viens de le dire, en fait, c'est stratégique parce que c'est de la santé publique. En fait, c'est des informations qu'on a besoin. On n'est pas des spécialistes. On a besoin, puis la santé publique, c'est l'institution qu'on s'est donnée pour dire, ben, il y a des gens qui vont nous donner de l'information pertinente lorsqu'il faut agir ou réagir en fonction de certaines choses. Fait que comme citoyen, on en a besoin. Le grand défi, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus vrai que tout le monde écoute le même bulletin de nouvelles à 18h ou à 22h avant d'aller se coucher. C'est plus vrai que tout le monde va lire le même journal. Donc, il y a une fragmentation. C'est-à-dire qu'on est tous des individus uniques en notre genre qui avons tous et toutes nos propres habitudes, nos propres intérêts aussi. C'est pas tout le monde qui veut savoir ce qui se passe dans les médias, puis c'est bien correct. Mais le défi, lorsqu'on doit transmettre de l'information qui est parfois urgente, du moins toujours pertinente, c'est de savoir quel chemin on prend pour rejoindre ces gens-là. Puis ça, c'est de plus en plus compliqué. On a de plus en plus de difficultés à rejoindre les gens pour leur donner de l'information de type affaires publiques, de l'information qu'on a besoin comme citoyen.
C'est ça, de l'information citoyenne, oui.
Exactement. C'est quelque chose qui va nous donner de l'information utile pour apporter un jugement sur ce qui se passe, que ce soit en politique, que ce soit en santé, peu importe. Mais ça, c'est de plus en plus difficile de la transmettre.
On ferait quoi, Phil? Vas-y, je m'excuse.
Non, mais ta question est bonne. On fait quoi? Moi, je pense qu'on on doit se poser la question. Puis c'est la première des choses. C'est les médias d'information, les journalistes vont toujours vouloir être fidés. Ils vont toujours vouloir avoir l'information parce que c'est leur rôle.
Oui.
Mais on ne peut pas prendre pour acquis qu'ils rejoignent tout le monde. Ça, c'est dur à dire. Puis moi, ça me crève le cœur parce que ces gens-là sont une courroie de transmission essentielle. Si on n'avait pas de journalistes, on serait en très mauvaise posture comme citoyen. Mais comme il y a des gens qui se sont détournés des journalistes, puis qu'on ne peut pas reconvaincre tout le monde parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte qu'il y a des gens qui ont décroché, bien là, on est un peu pris à utiliser des médias sociaux qui sont relativement peu fiables, qui sont coûteux, puis qui ne sont pas une plateforme de diffusion d'informations publiques. Les médias sociaux nous nous donne ce qu'on veut voir, nous donne pas ce qu'on devrait voir.
Non, c'est ça. C'est pas rigoureux non plus. Là. Au-delà des pannes comme on vit en ce moment avec Instagram en passant, Facebook et Messenger, au-delà de cette panne-là, c'est pas nécessairement des médias rigoureux. Comme tu as dit, il y a l'algorithme en arrière de tout ça qui va t'abreuver de ce que normalement tu regardes. Tu vas peut-être être à risque d'être dans une chambre d'écho. Si jamais, toi, c'est les vidéos de chats qui constamment te divertissent et t'intéressent, ben, tu vas passer à côté de la nouvelle. Ils vont pas t'en offrir aussi. Donc, cette exposition-là, puis ça me rappelle une chronique qu'on avait fait ensemble, Phil, au début de l'automne, où on parlait justement de, normalement, dans ta vie, sur le côté informatif, sur l'intérêt de ce que la nouvelle peut t'amener dans ta vie. Mais il y avait le fait qu'il y avait des TV partout. Ta mère, ton père, en préparant un souper, avait la télé ouverte. Donc, tu apprenais en étant jeune, même si tu jouais avec tes blocs Lego à côté, à comprendre ce qui se passait dans ton monde. Au souper, tout le monde en parlait de ces sujets-là parce que c'était un peu comme la température. Tout le monde était conscient de la nouvelle. Tout le monde avait écouté le bulletin de nouvelles. C'était quelque chose de social, de culturel. Et ça s'est amenuisé. Puis ça m'amène à me poser une question qui est fataliste, défaitiste et non optimiste assurément. Mais s'il y avait une guerre, Philippe, qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre tout le monde? Admettons, la télé brise, les réseaux sociaux sont pris d'assaut par, je sais pas moi... un pays comme la Chine, mais c'est pas le cas, là. Ben, peut-être en ce moment, je sais pas, on verra c'est quoi qui se passe avec la panne de Meta, mais on fait quoi? On retourne sur la radio AM?
Ben, je pense que, tu sais, la radio, là, si la radio recevait $1 à chaque fois que les gens avaient prédit la fin de la radio, je pense que vous seriez tous et toutes riches.
Oui.
Puis vous êtes encore là. Parce que clairement, ça répond à un besoin. Les gens qui nous écoutent en ce moment ont choisi d'écouter la radio, probablement parce que c'est un média qui est plus intime. Hein, on a l'impression d'être en conversation avec toi.
On l'est, oui.
Parce que on peut le faire aussi en faisant autre chose. Tu sais, c'est moins engageant qu'écouter la télé où là, il faut regarder et écouter. Moi, je pense que les médias traditionnels, tu sais, les bons vieux médias électroniques, là, comme diraient mes parents, ben, je pense qu'ils ont encore leur pertinence. Il ne faut pas penser que parce qu'aujourd'hui, on a accès à Internet, qu'on a accès aux médias sociaux, qu'on a accès à plein de choses, que ça, c'est désuet. Puis on revient à la boucle qu'on a commencé à tisser tout à l'heure en disant pourquoi on fait encore des conférences de presse. C'est qu'il faut quand même apporter de l'eau au moulin à ces médias traditionnels-là. Parce que lorsqu'on vit des situations d'exception, le réflexe, ça va être de se tourner vers ces sources-là considérées comme fiables, considérées comme traditionnelles, qu'on délaisse quand ça va bien, qu'on délaisse quand on a envie de se divertir. Mais quand il y a une catastrophe, là, on a besoin de savoir. Puis pour savoir, bien, je pense qu'on a besoin de gens comme toi, comme les journalistes dans les médias traditionnels, dont c'est le travail d'aller chercher l'information puis de nous la vulgariser via des médias qu'on peut juger comme étant sérieux, crédibles ou du moins plus solides que les vidéos de choc Facebook nous envoie parce que Facebook veut nous garder juste plus longtemps pour qu'on voit plus de pubs, pour qu'ils fassent plus d'argent, puis qu'ils s'en foutent un peu de savoir si on a l'information nécessaire pour être des citoyens ou pour avoir une opinion éclairée sur ce qui se passe autour d'eux.
Ouais, pour eux, c'est l'argent, en fait, la rentabilité. Le hic étant, Philippe, bon, on décide encore de faire des points de presse du côté du gouvernement. Je pense qu'il y a ce canal de communication-là qui est à questionner, mais il y a aussi peut-être l'embourbement de la nouvelle. Les gens semblent un peu fatigués d'avoir des nouvelles sur la santé. Ça nous inquiète, c'est anxiogène. Tu le vois, est-ce que tu le vois comme moi, comme étant peut-être un pan de nouvelles qui s'est effrité avec la pandémie? On a tellement parlé de santé qu'on ne veut plus rien savoir, ou du moins on veut vivre notre petite vie au quotidien, puis nous faire dire qu'il y a encore une infection qui est en recrudescence, puis que c'est mortel, puis que ça atteint les voies respiratoires. Ça ne nous tente pas, même si c'est important.
Ah, c'est clair qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue informationnelle par rapport à toutes les questions de santé, parce qu'on a été saturés. Puis tu sais, ce qu'on a vécu en pandémie, c'est exceptionnel sur tous les plans, notamment sur le fait qu'à tous les jours, puis tu sais, c'était des millions de personnes qui écoutaient la même conférence de presse. Tu sais, c'est des scores télévisuels aujourd'hui qui se peuvent presque plus au Québec, là, tu sais, à part les grandes séries, là. Mais tu sais, on s'est abreuvé à tous les jours. On a été bombardés d'informations sur un même sujet. Puis c'est un peu comme le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, c'est bon, là, mais si t'en manges 3 fois par jour pendant 2 ans, ça se peut que tu t'écœures. Ça se peut que t'aies le goût de manger autre chose que du gâteau au chocolat. Puis tu sais, je fais la comparaison parce qu'elle nous permet de comprendre. Là, évidemment, c'est plus complexe.
Ouais.
Mais tu sais, on est un peu tanné, on est un peu saturé. Puis il y a un piège auquel il faut pas embarquer comme citoyen. Hein? Souvent, lorsqu'on s'écœure d'un sujet, on n'y porte plus attention. où on associe en disant, ben, comme on l'a vu beaucoup, là, ben, on dit, ah, ben, là, il exagère, ah, ben, non, il parle.
Ben, on le voit, là, en ce moment, là, avec la rougeole.
Mais c'est un piège. Parce que la santé publique, là, puis surtout la santé publique, qui est vraiment une organisation très scientifique, avec des protocoles rigoureux, puis quand ils sont rendus à faire une conférence de presse, parce qu'en fonction de leurs données, ils se disent, bon, on n'a pas le choix de leur dire, c'est utile que les gens le sachent. Après ça, ils se gouverneront en conséquence, mais il faut leur dire. Si nous, par écœurite aiguë, on se met à ne plus écouter la santé publique, on se prive d'informations potentiellement utiles. Puis je dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, puis il faut suivre ça sans se poser de questions. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut pas tomber dans le piège, parce qu'on a beaucoup parlé d'un sujet associé à la santé publique dans les dernières années, de se couper puis de fermer les oreilles à chaque fois qu'on entend le mot santé publique, parce qu'il y a une raison derrière ça. S'ils nous en parlent, parce que selon leurs données, on devrait être au courant, puis c'est, en fait, c'est de l'information qu'ils nous donnent. T'sais, ils nous donnent des conseils, littéralement, pour pas s'en priver parce qu'on est écœuré. Mais en même temps, c'est compréhensible d'être écœuré parce qu'on en a énormément parlé.
Bien, ça, c'est notre devoir de citoyen, mais très rapidement, Philippe, parce qu'il nous reste 30 secondes. Oui. Est-ce qu'il y a un devoir gouvernemental aussi dans la sélection? Là, va-t-il falloir qu'il se pose la question? Là, la rougeole, pour nous, c'était vraiment important, mais prochain sujet, on laisse faire le point de presse. Y a-t-il ça aussi à remanier du côté gouvernemental?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, là, on est tellement bombardé de toutes sortes d'informations, de toutes sortes de sources, qu'on doit s'assurer que lorsqu'on parle, il faut que ça veuille dire quelque chose. Donc, trop parler, parfois, c'est se tirer dans le pied.
Très bien résumé. Donc ça sera le travail gouvernemental, en plus de peut-être revoir leurs canaux de communication, en élargir peut-être aussi de ces canaux-là, chercher ailleurs. Puis notre travail de citoyen, c'est de ne pas tomber dans le piège de ne plus s'informer quand on juge du côté de la santé publique. C'est très important. On ira explorer à un moment donné aussi tout ce qui s'en vient avec le big shot de la santé qu'on devra aller chercher à l'extérieur du ministère de la Santé. Plutôt un gestionnaire. Est-ce que ça va aider justement à la crédibilité de ces points de presse-là, du transfert d'informations à suivre. Merci beaucoup, Philippe Dubois, professeur en communication publique et politique à l'ENAP.
Salut, Pascal.
Salut. L'émission tire à sa fin. Il nous reste quelques secondes pour se dire un beau bye. Mais avant tout, on se retrouve avec Yannick Marceau dans un instant là, pour Marceau le midi. Avant tout, je répète qu'il y a une panne majeure en ce moment. Sur Internet, là, on pensait que ce n'était que Meta. Ça va plus loin que ça. Là. Facebook, Instagram, Messenger, Threads, ça c'est encore tout Meta, là, mais YouTube aussi est en panne, Google Play est en panne. Ce que je vois, c'est que c'est difficile aussi pour X de ce monde, Uber Eats, OpenAI, il y a une couple de d'applications, même les Walmart de ce monde et autres, là, qui sont dans la difficulté de vous servir comme d'habitude. Là. Il y a une grosse panne Internet à considérer en ce moment. Est-ce la fin du monde? On peut se poser la question. Je fais des farces avec ça, mais c'est intriguant. Puis on va aller aux sources le plus qu'on peut. Mais j'ai pas l'impression qu'on va avoir ces sources-là jusqu'à maintenant. Venez vous brancher sur Twitch avec nous. Ça fonctionne encore jusqu'à temps qu'ils nous coupent ça. Twitch.tv/BLVD/FM. Je le ferme quelques instants pour qu'on le rouvre à nouveau pour Marceau le midi. Sachez qu'on va être là pour vous. Merci d'avoir été dans leur CV.